Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Nous sommes le vendredi 17 juin 2022, il fait chaud, le ciel est complètement dégagé, les températures montent à 34 degrés cet après-midi en moyenne dans le Beaujolais et le Val-de-Saône, et ce week-end ça devrait se maintenir en petite canicule. Dans notre émission, nous allons parler de crypto-monnaie avec le prof Patrick qui s'amuse en ce moment à nous expliquer des mots très compliqués. Il le fait bien. Et en fin d'émission, on retrouve notre disquaire Pitch qui nous propose chaque semaine un album à écouter d'urgence. Tout ça, ce sera dans la seconde partie d'émission. Et avant ça, on va passer un moment avec nos invités du jour. C'est Amandine Merville et Aurélie Lambin qui sont avec nous en studio pour nous parler de l'association Un Autre Regard aux côtés d'Aiden. Amandine est la maman d'Aidan. Je le dis bien, on me fait signe que oui. Petit garçon né avec une anomalie génétique. Aurélie est la tata, si je dis pas de bêtises, et donc cette association a pour but de récolter et gérer des fonds pour soutenir et aider Aidan et sa famille de différentes façons, mais aussi de communiquer et d'échanger autour du handicap, de créer du lien avec d'autres associations, de créer des manifestations pour sensibiliser sur ce sujet. Et ce sera le cas le samedi 25 juin à Saint-Just-d'Avray avec l'organisation de la journée du handicap chez l'enfant. On va parler de leur association, on va parler de cette belle journée, de son programme. Mais d'abord, on commence comme d'habitude notre émission en musique avec une nouveauté aujourd'hui. Ça vient de sortir, c'est Ben Harper. We need to talk about it. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous. We need to talk about it. Ça vient de sortir et c'est plutôt chouette.
Ensemble sur Calade.
Allez, aujourd'hui on va parler de l'association Un Autre Regard aux côtés d'Aidan. Je regarde si je l'ai dit correctement. Vous allez le dire correctement pour moi. Avec moi en studio, Amandine Merville et Aurélie Lambin. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'être venue nous voir pour nous parler de cette association.
Avec plaisir.
Et plus particulièrement d'une journée un peu particulière qui est organisée le 25 juin.
Oui.
C'est la journée du handicap chez l'enfant.
Oui, tout à fait, oui.
On va commencer par parler de l'association. Pourquoi elle a été créée et c'est quoi son histoire?
Alors, l'histoire de l'association, en fait, on avait pas mal de personnes autour de nous qui nous disaient « on aimerait bien vous aider, on ne sait pas trop comment ». Donc on avait beaucoup de gens qui nous disaient « ça serait bien de faire une association, qu'on puisse participer d'une manière ou d'une autre, mais voilà, avoir une idée de comment on pourrait vous aider ». Et puis il y a eu un événement en fait dans notre vie pendant des vacances, une dame qui s'est permis en fait de donner quelque chose à notre fils parce qu'il faisait un peu de bruit, de lui donner directement quelque chose qui aurait pu le mettre en danger, juste parce qu'il faisait un peu de bruit, elle lui a donné une madeleine dans un papier en disant quelque chose de très très méchant sur le coup, et nous a ignoré nous complètement, et en fait c'est ce côté-là qui a fait que on s'est dit mais c'est pas parce qu'il est pas en fauteuil qu'il a pas un handicap, parce que le handicap il est là, il est clair, et, il est pas visible mais il est là, et on s'est dit on a envie en fait de sensibiliser les gens autour de nous et tout le monde en fait au handicap, et notamment au handicap chez l'enfant.
Et Dan, il est né en 2015.
Oui.
Et il est né avec une anomalie génétique, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Et en fait, j'ai bien compris, il ne se rend pas compte du danger. C'est ce que j'ai cru.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Il n'a aucune notion du danger. Donc, on est obligé de sécuriser absolument tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, c'est-à-dire mettre des barreaux à ses fenêtres, une clé à la serrure de la fenêtre, faire un lit, créer un lit sécurisé. Enfin, voilà, ça a été tout un parcours un peu compliqué. Et en ce moment, on crée justement une plateforme de jeu extérieur pour qu'il ait un espace de jeu où il puisse courir sans qu'on soit obligé de le tenir, en fait. Parce que c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas le lâcher. Ouais. Sinon, bah, il se mettrait en danger systématiquement.
Moi, ce que j'ai lu, il y a un petit texte sur le site internet où vous racontez une randonnée. C'est un enfant, il a envie de s'amuser et il ne se rend pas compte du danger. Et tout est propice à s'amuser, courir après son ombre.
Tout à fait.
Toutes les choses quotidiennes peuvent devenir compliquées, du coup.
Ouais, ouais, ouais. Tout, même pour manger, en fait, puisque il va manger très très vite, tout mettre dans sa bouche, donc il peut faire vite des fausses routes, donc il faut se méfier de ça. On a un poêle à bois, donc même avec une sécurité, maintenant qu'il est grand, il pourrait facilement le toucher sans se rendre compte des choses. Tout est sujet à un danger potentiel. Tout est un danger potentiel.
Quand on est enfant, on est curieux, on a envie de tout voir.
En plus.
Et on peut vite se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ce poêle à bois?
Voilà, tout à fait.
Très bien. Et donc, cette association, elle a été créée dedans. Ça s'appelle Un autre regard, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de sensibiliser, que la question du regard, c'est une question importante.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que donc, les personnes qui ont des proches en situation de handicap peuvent comprendre très facilement notre démarche, puisque dès qu'il va faire un peu de bruit, dès qu'il a un comportement qui n'est pas habituel, on va avoir des regards très lourds de gens qui jugent, en fait. Et on aimerait que... juste sensibiliser à ça, que les gens essayent de se dire, mais si ça se trouve, il a un problème, tout simplement, plutôt que de se dire, ah ben il est mal élevé. Voilà, nous, c'est surtout pour ça qu'on voudrait sensibiliser et ouvrir un peu, justement, les yeux des personnes qui nous entourent, en fait.
Et un autre aspect de l'association, mais qui est important, c'est que ce handicap, ça nécessite des équipements, ça nécessite du matériel, un accompagnement en particulier.
Ouais.
Et ça coûte des sous, et je crois que c'est une espèce de parcours du combattant pour avoir avoir des aides et faire fonctionner tout ça, non ?
Alors oui, c'est assez compliqué. Notamment, on avait un petit peu eu du mal pour le lit. Un lit sécurisé, ça peut être autour des 9000 euros, quelque chose comme ça, quelque chose qui correspond à notre office. Et en fait, les prises en charge sont là, mais elles sont peu accessibles et pas assez conséquentes. Et donc, il a fallu qu'on fasse un peu travailler nos méninges et qu'on crée nous-mêmes un lit qui serait un coût moindre. Mais voilà, comme pour l'espace sécurisé, comme pour une barrière spécifique à sa chambre qui soit solide, qui ne puisse pas casser, c'est tout des matériaux qui sont extrêmement chers. Et du coup, oui, on récolte de l'argent pour ça.
Ouais.
Pour son quotidien, en fait.
Bah, tout simplement, ouais. Et alors, comment on fait ? Qu'est-ce que fait l'association ? Quelles actions est-ce que vous menez avec cette association ?
Alors, au cours de l'année, par exemple, on a fait une vente de pizza, on a fait une vente de fleurs, vente de chocolat de Noël. Voilà, on fait plusieurs ventes.
Oui, on a des amis aussi qui veulent nous aider, qui créent en fait des choses et qui
des donc bijoux, des dessins.
Qui prennent vendent. Une participation en fait, puis qui nous donnent une partie des fonds. Donc,
et il y a beaucoup aussi d'associations d'écoles entre
J'ai vu des crosses solidaires qui sont organisées. C'est chouette.
Oui, c'est assez chouette. Ouais.
Il y a eu une brocante aussi faite par le collège Saint-Viateur à
Amplepuis,
qui du coup, par la récolte de la vente de ses jouets, nous en ont quasiment tout reversé.
Ouais. Ça nous a permis, grâce à ça, en fait, d'acheter un trampoline très grand pour Aidan, pour qu'il ait un vrai espace de jeu
sécurisé.
Ouais, qui nous permette nous d'être assis à côté et que lui puisse s'amuser tranquillement, quoi.
Bouger en toute liberté.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai que c'est le problème. Aidan, physiquement, ça se voit pas qu'il est handicapé. Donc, c'est sûr qu'on peut passer à côté. Hein, et je pense que c'est ce qui a fait la fameuse histoire de cette Madeleine. Et pour les parents, je pense que c'est pas évident à vivre. Nous, on est là à côté pour les épauler. Mais c'est vrai que du coup, l'importance de cette association, c'était de le faire partager au monde que c'est pas parce qu'on le voit pas qu'effectivement, il n'y a pas de handicap. Et également, effectivement, de prendre des fonds pour essayer de trouver des solutions, inventer des choses. Donc, on réfléchit, hein, on est sans arrêt en train de réfléchir à finalement des nouvelles versions pour qui puissent vivre, entre guillemets, normalement, mais de façon sécurisée. Et donc, les dons, les ventes, tout ça, ça sert à ça. Mais c'est vrai que du coup, la journée qu'on fait le 25, c'est plus un partage avec les parents d'enfance dans cette situation, de professionnels et donc l'après-midi, ça sera plus des activités d'échange avec des enfants dits normaux, entre guillemets.
Ouais, ce sera plus l'aspect sensibilisation, mais les actions, les ventes, etc., ça peut aussi être un prétexte pour sensibiliser, c'est que susciter...
Ça fait parler de l'association.
Expliquer...
Ouais, tout à fait. Alors nous, on est très ouverts. Donc quand, par exemple, on a fait... Quand les enfants... Les jeunes ont fait la brocante solidaire au collège Saint-Viateur. Et ils ont été très intéressés par le cas d'Aidan et avaient envie de comprendre. Et donc, nous, on est très ouverts à ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est que si les gens veulent poser des questions, et ben, on est là aussi pour ça, pendant ces manifestations. On répond de manière très ouverte. On préfère ça plutôt qu'un regard un peu...
Oui, des non-dits, et vaut mieux expliquer les choses, les dire clairement, plutôt qu'on ait des préjugés.
Voilà, exactement.
Et donc, c'est pas du tout un jeudi, c'est le 25 juin, c'est un dimanche, c'est jeudi.
Un samedi,
très bien. À Saint-Jeu-d'Avray, il y a une journée qui est organisée, donc la journée du handicap chez l'enfant. Avec effectivement des professionnels du handicap, ça je crois que c'est plutôt le matin.
Oui, alors on en a un petit peu toute la journée, mais surtout le matin, c'est on va dire une espèce de speed dating avec donc les parents d'enfants en situation de handicap qui peuvent venir rencontrer des professionnels bien spécifiques et poser leurs questions.
Ouais.
Voilà, pour avoir. Nous, on a eu la chance d'avoir des réponses très vite. On sait qu'il y a des parents qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à s'informer, à être informés. Et on a voulu que cette matinée soit pour eux.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, est-ce que avec votre association et votre parcours, vous avez rencontré d'autres associations de parents? Et est-ce qu'il y a du contact et des
liens? On a
eu
des échanges de messages, ouais. Mais pour l'instant, c'est pas vieux. Hein, on a ouvert en septembre 2020, donc l'association n'est pas très très vieille.
Encore jeune, ouais.
Et voilà, on se rôde un peu entre guillemets aussi. Mais du coup, pour l'instant, c'est vrai que physiquement, on n'a pas rencontré de parents. C'est le but de cette journée. D'ailleurs, tous les parents qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à venir. Au contraire, le but, c'est d'échanger au maximum. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu pour l'instant d'échange.
D'accord. Ouais. Alors, au Cross Solidaire, là, par exemple, qui s'est déroulé la semaine dernière, donc c'était en faveur de deux associations. Et on a rencontré donc une maman qui a créé une association pour que Abel et Eden vivent. Et donc, là, on a eu un contact, mais voilà, on n'a pas franchement un réseau.
Ouais. Si on continue le programme de la journée, il y a des activités qui sont proposées pour les enfants toute l'après-midi.
Tout à fait, ouais.
Et là, il y a plein de choses chouettes.
Oui.
Il y a de la médiation animale, par exemple, qui est prévue. En quoi ça consiste?
Alors, les professionnels sont peut-être un petit
c'est
peu plus
aptes à répondre que nous. Ouais. Le but, c'est, il y aura des animaux et puis c'est d'apprendre à les respecter. D'aller avec douceur.
Créer du contact.
Et puis, alors c'est vrai que pour l'exemple, nous, à Aidan, il n'a pas fait de cas des animaux pendant une très longue période quand même. C'est assez récent qu'il s'aperçoit que, il y a des êtres vivants en plus de nous.
Ils s'en fichaient complètement.
C'est comme s'ils ne s'en rendaient pas compte, en fait. Ouais. Alors que, la médiation animale, je pense que c'est aussi pour ça, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a d'autres êtres vivants autour d'eux, en fait, tout simplement. Puis y aller doucement. Surtout.
Je crois que les animaux ont peut-être la capacité aussi d'apaiser.
Oui, tout à fait.
Ce genre de choses. Il y a de la musique, il y aura des contes et des comptines signées.
Oui,
ça c'est chouette.
Oui, en langage des signes, tout à fait.
La création artistique, des activités sportives et de la sensibilisation au handicap dans toutes ces activités pour enfants. Dès le plus jeune âge, on peut commencer à expliquer ce que c'est que le handicap.
Oui, tout à fait. Alors, les plus petits ne se rendent pas compte. En général, pour eux, l'enfant, il est un peu différent, mais il n'y a pas de notion de handicap.
Il n'y a pas le jugement comme il peut y avoir dans le regard des adultes.
Non, tout à fait. Et c'est comme pour tout, comme pour le racisme et le reste. Les enfants ne se rendent pas compte de tout ça. C'est en devenant adulte que ça vient. Donc nous, non, c'est surtout pour... alors c'est vrai qu'ils peuvent avoir... certains enfants peuvent avoir des gestes un peu précipités, un petit peu un peu foufou. Ils peuvent crier. Donc là, c'est vraiment pour que les enfants dits normaux et les enfants en situation de handicap puissent trouver un terrain d'entente et puis peut-être que chacun s'apprivoise en fait, tout simplement.
Apprendre à jouer ensemble et passer du temps ensemble.
Voilà, tout à fait.
Et à côté de ça, ça c'est plutôt pour les enfants, les pitchounes, et à côté de ça, il y a des tables rondes plutôt pour les adultes.
Ouais.
qui sont axées autour de témoignages, c'est ça?
Oui, alors non, on a des associations comme la page qui est là pour proposer du répit en fait aux parents aidants. Là, ça sera surtout axé pour les parents aidants, donc table ronde autour du quotidien. Donc on va discuter un petit peu de choses et d'autres autour du quotidien quand on a un enfant en situation de handicap, et puis des démarches aussi.
Les démarches administratives, etc.
qui peuvent être très lourdes.
Très lourdes, très compliquées. Ouais.
Il y en a une troisième, ça s'appelle Un autre regard et la vie en société.
Ouais.
Qui là revient à ce qui a déclenché peut-être la création de cette association, c'est ça?
Oui, forcément. Oui, parce que chaque étape avec les autres est finalement assez compliquée. Par exemple, mon mari a quand même failli se refermer complètement sur lui. Il voulait plus sortir à cause de ce regard, en fait. Il voulait plus aller au restaurant parce que notre fils crie beaucoup et que tout le monde se retourne vers nous, des choses comme ça.
Se justifier.
Et voilà. Et donc, nous, on est aussi là pour montrer que non, en fait, on a le droit. Ah. On a le droit d'être là. Les familles qui ont des enfants en situation de handicap ont le droit d'être là. Alors oui, c'est compliqué pour les autres. Leur confort est un petit peu dérangé. manger, mais voilà, il faut qu'on ait notre place aussi, en fait.
Très bien. Donc une journée pour se sensibiliser, s'informer. Journée festive aussi.
Jouer. Il va y avoir vraiment des petits jeux comme ce qu'on appelle la patouille. Ils vont devoir fouiller un petit peu dans des choses à l'aveugle. Et puis des casse-boîtes, les choses un peu classiques comme une kermesse, ouais. Voilà, pour les enfants. Et ce qui permet aussi aux parents d'avoir un temps sans leurs enfants, ouais. Et pour qu'ils puissent s'informer, en fait. C'est aussi pour ça, c'est que on a un certain nombre de bénévoles sur cette journée qui vont encadrer des groupes d'enfants pour que les parents puissent, eux, accéder en fait à des ateliers qui leur est destinés.
Très bien. Ce sera donc le samedi 25 juin à Saint-Just-d'Avray. Si on veut plus d'informations sur cette journée, sur votre association...
Ouais, sur Facebook, on nous trouve facilement.
Par Facebook, l'association, je vous redonne le nom, Un Autre Regard, aux côtés d'Aïdan.
C'est ça, tout à fait.
Très bien. S'il nous écoute, Aïdan, on peut lui souhaiter un petit peu en avance un joyeux anniversaire,
c'est ça ? Un peu.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues
nous
voir aujourd'hui.
Merci à vous, merci.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, un peu de musique sur Calade. C'est justement le nom du morceau qu'on écoute. La musique, c'est The Lee Bananas. The Lee Bananas sur Calade avec un morceau qui s'appelait La Musique.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Allez, bah c'est le prof Patrick qui est avec nous tout de suite en studio. Bonjour prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, on était dans la blockchain.
Ouais, c'est bien, bonne mémoire Mathieu. J'ai entamé une trilogie en quelque sorte, une trilogie qui a commencé par la présentation la semaine dernière de ce qu'était la blockchain. Alors pourquoi ? Bah parce qu'en fait, cette présentation nous permet d'aborder la deuxième partie aujourd'hui qui est les crypto-monnaies. Okay. Il fallait en passer d'abord par l'explication de ce qu'est la blockchain. Et la semaine prochaine, on finira avec les NFT, qui est quelque chose d'encore plus pointu, mais je garde ça pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, les crypto-monnaies, aujourd'hui je suis plein de bonnes résolutions, c'est les bonnes résolutions qu'on prend d'habitude à la rentrée, mais là je les prends avant les vacances, c'est pas grave, je vais donner le plan de ma chronique. C'est-à-dire que dans une première partie, on va voir que les crypto-monnaies sont nées du génie des inventeurs du Bitcoin. Ensuite, on définira ce qu'est une crypto-monnaie, ce qui va très vite nous amener à nous demander c'est quoi une monnaie, d'accord ?
Okay.
Et enfin, on se demandera si les crypto-monnaies sont des monnaies. Alors, pas de suspense, la réponse est plutôt non.
Ah ouais.
On répondra donc par la négative en expliquant pourquoi.
Voilà. D'accord.
On y va, Mathieu ?
Ok, vous êtes très scolaire, c'est les épreuves
exactement,
du bac.
Exactement, voilà, tout à fait. On m'a dit, sois plus scolaire, prof Patrick, quand même, mérite ton blaze. Donc, on fait comme ça.
Et bah, allons-y.
C'est parti. Alors, un petit préalable, mais tu vas voir qu'il te rappelle quelque chose, j'en ai parlé semaine dernière. Si on évoque la philosophie des fondateurs d'Internet au début des années 90, et bien cette philosophie, c'est le rejet massif, viscéral, de toute autorité, et notamment de l'État. C'est la volonté de créer un monde qui est, j'ouvre des guillemets, c'était des expressions des créateurs d'Internet, partout et nulle part, dont le principe unique devait être la liberté d'accès et d'expression sans entrave. C'est chouette, hein, tout ça. On pourrait mettre des violons derrière moi et on pleurerait tous. Le rejet de toute contrainte, le rejet de toute souveraineté. Une phrase très chouette d'un des fondateurs, nous créons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. C'est-il pas beau, tout ça ?
Ah ouais, c'est le futur, c'est incroyable.
Voilà. Et si tu te souviens bien, en fait, la semaine dernière, dans la chronique sur la blockchain, j'avais expliqué que c'était aussi la philosophie des inventeurs de la blockchain qui ne sont rien d'autre que les inventeurs du Bitcoin.
Ouais.
Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la crypto-monnaie, elle démarre sur cette philosophie très noble, d'accord ? Et très radicale, rejet de toute autorité. Alors, le Bitcoin, il est créé fin octobre 2008 par un collectif anonyme qui se fait appeler Satoshi Nakamoto et qui publie un livre blanc qui s'appelle « Bitcoin, un système pair à pair de cash électronique ». Dans ce livre blanc, on y décrit le fonctionnement d'une crypto-monnaie, le Bitcoin, et de la blockchain sur laquelle elle s'appuie. Les premiers blocs seront créés par Satoshi Nakamoto le 3 janvier 2009.
D'accord.
Et après, c'est parti. Les bitcoins sont créés chaque fois que des mineurs, ça c'est un petit rappel de la semaine dernière, mineurs c'est des personnes qui mettent à disposition du réseau leur puissance ordinateur, chaque fois que ces mineurs créent un bloc de la blockchain en résolvant un problème cryptographique. Tu comprends qu'il valait mieux parler de la blockchain avant ?
Parce que
si je dis ça avant la chronique, personne ne comprend rien.
On n'y comprend rien.
Le collectif Satoshi Nakamoto a fixé à 21 millions le nombre maximal de bitcoins à ne pas dépasser. Le nombre de bitcoins mis en circulation annuellement est divisé par 2 tous les 4 ans. Voilà, c'est le bitcoin.
Okay.
Succès colossal. Deuxième partie de la chronique, c'est très bien tout ça, mais pouf pouf, c'est quoi une crypto-monnaie concrètement ? C'est extrêmement simple. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, c'est-à-dire qui n'a pas de support physique. Okay ? Elle est en usage sur Internet uniquement, mais surtout, elle est indépendante des autorités bancaires. Ouais. C'est ça le point le plus important. Et elle est liée à un système de cryptage. Ça, c'est l'aspect blockchain. Pour aller plus loin dans la réflexion, en fait, faut tout de suite se dire, ok, c'est bien cette histoire, mais c'est quoi une monnaie, en fait, hein ?
Ouais.
D'accord ? Parce que c'est ça le sujet principal caché derrière. Alors, en économie, on a coutume de dire qu'une monnaie doit répondre à 3 fonctions. La première fonction, on l'appelle la fonction d'unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie doit permettre de donner une valeur à n'importe quel bien. Exemple, cette table, elle vaut 250 euros.
Ouais,
c'est ça la fonction d'unité de compte, une belle table. Voilà. Deuxième fonction, une monnaie doit répondre à une fonction d'intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir nous permettre d'acheter et de vendre n'importe quel bien ou service. Donc avec ma monnaie, les euros, tiens donc, j'ai acheté cette table, c'est pas vrai d'ailleurs, c'est Radio Calade qui l'a acheté. l'euro est une monnaie qui a permis, grâce à cette fonction d'intermédiaire des échanges, d'acheter le matériel nécessaire. Troisième fonction, une monnaie a une fonction de réserve de valeur, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir accumuler cette monnaie dans le but d'une dépense future, en faisant en sorte que cette monnaie ne perde pas trop de sa valeur, est une valeur plutôt stable.
Ouais.
D'accord ? Voilà, bon, c'est généralement comme ça qu'on définit une monnaie en économie, hein. C'est aussi simple que ça. D'où la question suivante, les crypto-monnaies remplissent-elles ces 3 fonctions ? on va prendre le bitcoin hein, pour essayer de vérifier en quelque sorte. Fonction unité de compte, donner de la valeur à un bien. Cette monnaie, cette table vaut 250 euros, elle vaut, je sais pas, 0,3 bitcoin. Donc en théorie, oui, une crypto-monnaie comme le bitcoin peut servir de fonction d'unité de compte. En théorie.
Pour l'instant, on est bon. On est à peu près bon.
Ouais, ouais, non. Parce que je t'ai dit en théorie.
Ah, mince.
Parce qu'en réalité, le problème, c'est que le Bitcoin, comme toutes les crypto-monnaies, a une valeur qui varie de façon absolument monstrueuse et extrêmement rapidement, en permanence. Ça veut dire qu'en fait, à la limite, on devrait changer toutes les demi-journées le prix en Bitcoin d'un bien, tellement la valeur du Bitcoin ne cesse de varier. Donc ça, c'est un premier problème. C'est presque impossible de l'utiliser en fonction d'unité de compte.
D'accord.
Deuxième fonction, intermédiaire des échanges. Oui, aujourd'hui, il existe des startups qu'on appelle des fintech, c'est-à-dire des startups spécialisées dans la finance, qui proposent des cartes de paiement en Bitcoin et qui font le lien avec notre monnaie officielle, etc. Donc, oui, là aussi, en théorie, on peut utiliser le Bitcoin comme instrument des échanges. Mais là aussi, la volatilité extrême du Bitcoin rend les choses extrêmement compliquées. Mais ça, à la limite, c'est le problème de la fintech. Elle se débrouille, hein, en quelque sorte. Ouais. Mais surtout... objection principale, très peu d'acteurs économiques acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Ouais. Tu vas voir ton, je sais pas, tu vas à la Fnac, est-ce que je peux payer en Bitcoin? Ben, oh, putain, je fais de la pub, bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Ils vont te dire non.
Ouais.
D'accord? Ouais, pour être accepté comme, pour accomplir sa fonction d'instrument des échanges, ben, il faut être accepté. Et là, c'est un problème. Dernière fonction, est-ce qu'une crypto-monnaie, le Bitcoin, peut servir de réserve de valeur? Ben, j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit à peu près stable. Hein. Ça, c'est le gros problème, c'est que les crypto-monnaies en général et le Bitcoin en particulier sont tout sauf stables. Leur valeur varie de façon absolument incroyable. Et donc, l'épargne qu'on accumulerait pourrait grossir ou diminuer dans des proportions absolument gigantesques sans que l'on ait aucun contrôle là-dessus. OK ? Donc, on voit que le problème principal des crypto-monnaies, en général, et du Bitcoin en particulier, c'est la volatilité, c'est-à-dire la variation extrême de la valeur de ces crypto-monnaies. Ce qui rend les acteurs économiques pas très désireux de les intégrer comme moyen de paiement. Hein. On se dit, on va pas aller se compliquer la vie parce que c'est une horreur. Je vais te donner quelques informations sur l'évolution de la valeur du Bitcoin depuis sa création, on va dire depuis 2011 environ, parce qu'avant, personne s'y intéressait. Jusqu'à début 2013, la valeur du Bitcoin a varié entre 1 et 20 dollars. Ensuite, un an après, début 2014, c'était passé à 770 dollars pour un Bitcoin.
En un an,
ouais, tout à fait. Trois ans après, début 2017, on est passé à 998. Bref, on a oscillé entre 770 et 1000. Je dis oscillé, mais c'est pas vrai en fait, parce que ils faisaient le yo-yo en permanence. La valeur pouvait monter très haut, chuter, etc. Je te donne juste des points de repère. Ensuite, on était à donc 998 dollars 2017. On passe de début 2018, tiens-toi bien, à 13 000 dollars le Bitcoin.
D'accord. Ça commence à faire.
Début 2019, on est tombé à 3 700 dollars.
Ah ouais.
D'accord. Le 13 novembre 2020, on est passé à 19 860 dollars le Bitcoin.
Et donc si on avait acheté à 3 000, là, on est...
Eh oui, c'est ce qu'on se dit toujours. Hein. On se dit toujours, j'aurais dû faire ça, a posteriori. Le 8 février 2021, le Bitcoin vaut 44 000 dollars. D'accord. En avril 2021, le Bitcoin vaut 58 960 dollars. D'accord. Et aujourd'hui, le Bitcoin vaut 26 237 dollars.
D'accord.
Donc c'est des montagnes russes, pas possible. Alors... Objection possible, il existe des stable coins. T'as vu mon accent? Stable coins, c'est-à-dire en fait des crypto-monnaies stables, structurées pour avoir une valeur stable, alignée sur la valeur du dollar. C'est bien, mais ça justifierait en soi une chronique à part. Donc, on verra à la rentrée si je fais une chronique sur les stable coins. Il y a de quoi dire, ce serait sympa. Quatrième partie de ma chronique, pour bien comprendre pourquoi les crypto-monnaies ne sont pas de la monnaie. On a vu la question de la volatilité, mais on va aller plus loin en fait. On va aller plus loin que ça et on va rajouter des éléments supplémentaires. Et pour ça, on va solliciter l'analyse d'un sage, en économie, un économiste français qui s'appelle Michel Alietta.
Il y a des sages en économie ?
Ouais. Il faut attendre qu'ils soient très vieux pour qu'ils arrivent au niveau de sagesse de Michel Alietta. C'est un grand spécialiste de la monnaie. Et Michel Alietta, il nous explique des choses très intéressantes. Il nous dit que la monnaie n'est pas que cet outil qui remplit les trois fonctions que j'ai expliquées. D'accord ? La monnaie nous permet de faire société. Faire société. C'est un ciment de la société. Ça nous permet de nous reconnaître comme membres d'une société. Comment ça ? Alors là, c'est un petit peu compliqué, je vais essayer d'aller lentement et d'être clair. par le fait que la monnaie participe au processus de finalité des paiements, c'est-à-dire aux mécanismes qui permettent à la société de reconnaître qu'une transaction est valide. La monnaie, si moi j'achète quelque chose avec la monnaie qui est l'euro, la société reconnaît la validité de ma transaction. Et donc l'euro fait société par la reconnaissance que la société apporte à toutes ces transactions. D'accord ? Et c'est en ça qu'on dit que la monnaie est souveraine. Le terme souverain est important. Ouais. Le problème des crypto-monnaies, c'est qu'elles ne permettent pas ce processus. Les crypto-monnaies, selon Michel Aglietta, ne sont pas souveraines parce qu'elles sont ambivalentes. Ambivalentes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, les crypto-monnaies aspirent à ce rôle social, elles aimeraient bien avoir ce rôle social, mais de l'autre côté, en fait, on s'est aperçu à ce jour que les crypto-monnaies ne sont rien d'autre que l'instrument du capitalisme dans sa forme la plus extrême et la plus épurée, faire de l'argent avec de l'argent, sans aucune base concrète. D'accord ? On voit la finance, c'est ça. Et donc, par leur ambition originelle de créer une alternative au système monétaire fermé, contrôlé par une autorité, et donc de créer un système ouvert, eh bien, les crypto-monnaies ont de fait créé une situation d'ultra-volatilité, que j'ai évoquée tout à l'heure, ce qui rend leur fonction sociale impossible et qui accentue leur fonction spéculative.
Ouais, c'est ça.
D'accord ? Elles aimeraient bien aller vers une fonction sociale, mais elles ont basculé dans l'autre pôle extrême, la fonction spéculative. Alors on peut se demander pourquoi ces monnaies, ces crypto-monnaies, sont si volatiles, pourquoi leur valeur varie de façon aussi énorme. Et bien Michel Aglietta nous donne la réponse. Il nous dit quand un acteur officiel, par exemple la banque centrale qui crée des monnaies, des billets et des pièces, ou les banques commerciales qui créent de la monnaie scripturale, quand cet acteur officiel crée de la monnaie, et bien cet acteur, la banque centrale ou une banque commerciale, génère dans ses comptes une contrepartie. D'accord ? Et cette contrepartie, c'est une dette. Elle génère dans ses comptes une dette et donc l'acteur en question, la banque par exemple, qui a créé de la monnaie en nous faisant un prêt, eh bien elle prend acte dans ses comptes qu'elle a une dette, d'accord, du fait qu'elle a créé cette monnaie et que cette dette a vocation à être remboursée. Donc soit remboursée, soit à minima contrôlée. Les crypto-monnaies sont créées sans aucune contrepartie. Leur valeur n'est tenue par rien, en quelque sorte, et leur valeur peut donc varier à l'infini. Tout comme peut varier, par exemple, la valeur d'une œuvre d'art. Tu sais, les œuvres d'art sur le marché, aujourd'hui, le marché de l'art, ça varie de façon complètement délirante. Eh bien, les crypto-monnaies, c'est un peu la même chose. Conclusion de cette chronique, Mathieu. Comme une malédiction, les êtres humains partent souvent de rêves philosophiques nobles. Et puis, ils semblent encore et toujours condamnés à retomber dans la médiocrité de la nature humaine. Un peu de philosophie de comptoir, ils ont passé le bac de philo, les terminales, c'est très bien. La médiocrité de la nature humaine, c'est quoi ? C'est l'avidité, la soumission aux pulsions du toujours plus. Eh bien, les crypto-monnaies ne font pas exception. Elles sont parties d'un rêve d'autonomie, d'un rêve de liberté, et elles sont devenues l'instrument rêvé des spéculateurs les plus bourrins.
Ouais.
Gagner toujours plus. Ecce homo, pourrait-on dire, je finis avec du latin, je suis trop fort. Voilà l'homme, ça veut dire.
Très bien.
J'en ai fini, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À tout bientôt, la semaine prochaine.
Ensemble sur Calade.
Allez, ben, sans transition aucune, on passe tout de suite à la musique.
Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Le choix du disquaire.
Ensemble sur Calade.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Et pour nous parler musique, c'est sur Pitch qu'on compte. Bonjour Pitch.
Voilà, et sur vinyle. Salut Mathieu.
Ça va bien, en forme ?
Bah nickel, super super. Je viens d'enlever la clim. Je suis en route pour Neuville-les-Dames pour une estimation. Et dans ma main, l'un des 300 exemplaires donc du disque choisi de la semaine.
Alors, dis-nous en plus. Ça s'appelle Fiction, le disque, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, ça sort chez Ouch Records, le label que je mets beaucoup en avant à la radio. Ça fait plusieurs sélections de ce label local, jazz, mais pas que. Beaucoup d'univers. Alors, donc il y a 300 exemplaires. C'est magnifique. Alors, on est sur du papier à dessin, pur et dur. C'est 300 exemplaires numérotés, une belle pochette et une illustration de Pitre. Pitre qui est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est plutôt sur Saint-Etienne, avec Ella. Donc voilà pour le visuel. C'est deux gars qui sont suspendus par des... C'est trop marrant, par des fils au mur.
Ouais, comme si c'était des pantalons en train de sécher sur...
Ouais,
je sais pas, je vois ça.
Non, mais c'est ça.
On les a mis à sécher.
Donc c'est une collaboration entre Lionel Martin et Jean-Jacques Birger. Donc Lionel Martin, on en parle tout le temps, on va plus le présenter.
Saxophoniste.
Voilà, que tu connais aussi très bien. Jean-Jacques Birger, alors moi je ne connaissais pas, multi-instrumentiste, clavier, frein et trompette à hanche, percussion, voix, guimbarde, flûte, incroyable. Hyper intéressant, énigmatique. On va être dans l'énigmatique parce qu'il y a des sons, il y a des voix, il y a du concept. Voilà, disque très rare. Alors, c'est enregistré à l'instantané, comme ils disent, le 11 mai 2021.
Ouais.
C'est de la pure compo. C'est un format LP parce qu'il n'y a que 5 pistes, mais la phase B, par exemple, il y a une piste qui dure 14 minutes 25.
14 minutes, oui, c'était un sacré morceau quand même.
Ut nihil non isdem verbis rederetur auditum, pour ceux qui passent leurs examens de latin. On est à fond là-dedans, c'est le titre de la piste.
Voilà. Ouais.
je ne sais plus ce que ça veut dire, hein, mais voilà, nos coutumes sont saturées de hasard pour l'autre titre.
Ouais.
Voilà, super intéressant, une belle sortie à se procurer, une belle. Bel objet d'art et encore un bel enregistrement pour moi.
Et j'invite à écouter cet album pour le découvrir. J'invite aussi à aller voir ce que font les illustrateurs qui ont signé la pochette et la épître, parce que c'est vraiment des immenses artistes qui méritent d'être très très connus. Et je pense qu'ils le sont déjà pas mal. Merci beaucoup, Pitch.
Bah, grand plaisir, comme tu le sais. On en a une dernière avant les vacances ou on continue jusqu'à août?
Eh ben, on se retrouve au moins la semaine prochaine et je sais pas si l'émission continuera encore après ou si c'est la dernière de la saison la semaine prochaine.
Suspense.
En attendant, on écoute Lionel Martin avec le titre que j'ai choisi, c'est donc « Nos coutumes sont saturées de hasard » et j'ai oublié de citer Jean-Jacques Birger qui fait partie de ce duo. Merci beaucoup, Pitch, à très bientôt.
Ok, à plus.
à dire, il nous fait quand même écouter des choses pour le moins surprenantes, l'ami Peach. C'était Lionel Martin et Jean-Jacques Birger, un morceau qui s'appelait « Nos coutumes sont saturées de hasard ». Et ça figure donc sur cet album qu'il nous a proposé aujourd'hui, « Fiction », sorti chez Ouch Records. Et c'était donc le choix du disquaire.
Ensemble sur Calade.
Et c'est là-dessus que va se terminer notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle est à retrouver, bien évidemment, sur notre site internet radio-calade.fr. La rediffusion, ce sera lundi matin à 10h. Je vous donne rendez-vous lundi à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. Mais on pourra déjà se retrouver demain samedi à partir de 16h en direct du festival Blues à Jarniou. On vous prépare 2 heures de direct avec les organisateurs, les partenaires du festival, de la musique bien évidemment, et les artistes du festival qui viendront parler à nos micros. Voilà, petit après-midi sympathique sur le festival Blues à Jarniou. C'est prévu demain de 16h à 18h. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un très très bon week-end. Et puis je vous laisse tout de suite en musique avec, tiens allez, je me fais plaisir, ça vient de sortir, Stupeflip, c'est un petit peu le groupe de ma jeunesse qui ressort des morceaux enfin et retourne aux bases, et le morceau s'appelle Vengeance. C'est presque aussi fou que Lionel Martin.
Il y a quelque chose là, non ? Il se passe quelque chose là ? Je suis le stup messager, l'oiseau quadricéphale, le super champignon qui pénètre ton encéphale. Je suis gardien du précipice, on ne sait pas ce qui s'y passe. J'infiltre ton espace sans sortir de ma carapace. Je suis l'énigme, le fou, la seule échappatoire, un ultime rempart aux catastrophes prémonitoires. Je suis le padré, le doc, le pacificateur. Je protège ma petite sœur, combatte la peur. Je suis pour, y a pas d'erreur, le stup tue. Sors les antibiotiques, suis avec précaution et à dose homéopathique. Je suis le fils de Kraou, je reviens du royaume des onze. Ce que t'aimes pas chez les autres, c'est ta propre part d'ombre. Moi c'est Kinju, c'est le fléau, celui qui criait pas dans le préau. J'en ai rien à foutre de la météo, devant mon ordi j'attends le chaos. Moi c'est Kinju, c'est le fléau, celui qui criait pas dans le préau. J'en ai rien à foutre de la météo, devant mon ordi j'attends le chaos.
Alors c'est où l'heure du stu? C'est quand l'heure du stu? À quelle heure? C'est maintenant, man.
Si la bique attaque, rappe lourd dans ta face, pas de truc lisse. Ici se fie sur ta carcasse, t'en fais des qui est la classe. Check ce truc à coup de slasse. Ta meuf à la peau grasse, trop de gloss sur sa face, qu'elle pas ta caisse, fils. Fric et strass provoque du stress. Bande de bâtards, je me casse, ils se la pètent dans leur caisse. Leur klaxon sans la pisse. Pauvre alcoolisé, rate le concours de la police. J'ai la parfaite pulsation pour apaiser les imbéciles. Quand ce putain de son passe, y'en a pas un qui bouge ainsi. Ils m'aident à l'esprit étriqué, tous hypocrites et détraqués. Je te jure que je vais les faire craquer comme Patrick Dever et Trinquant.
Moi c'est
Kinju,
c'est le fléau, celui qui criait pas dans le préau. J'en ai rien à foutre de la météo, devant mon ordi j'attends le chaos. Moi c'est Kinju, c'est le fléau, celui qui criait pas dans le préau. J'en ai rien à foutre de la météo, devant mon ordi j'attends le chaos.
Tellement de gens qui croient détenir la vérité. Sur moi je détiens la vérité. Mais tu détiens rien du tout. La seule vérité, c'est que tu vas...